va enchaîner tout de suite avec la présentation de Jean-Jacques Cadet, qui est un récent docteur en philosophie de l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, et qui est l'auteur d'une thèse sur le concept d'aliénation dans le marxisme, le cas d'Haïti 1946-1986. Il s'est intéressé de très près à la genèse et à l'histoire du marxisme haïtien en dialogue, notamment avec les théories, outre la tradition marxiste européenne, avec les traditions, les théories latino-américaines de la dépendance et la pensée postcoloniale. Il est l'auteur d'articles consacrés à l'introduction des idées de Marx en Haïti au XIXe siècle, ainsi que d'un ouvrage à paraître sur le fondateur du Parti communiste haïtien, Jacques Roumain.
Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous proposer quelques réflexions à partir d'Haïti. C'est un pays actuellement en crise, dont l'actualité est marquée par beaucoup de manifestations contre le président inculpé dans des actes de corruption. C'est un pays aussi qui a connu, disons, plus de trois siècles d'esclavage, que ce soit avec l'Espagne et la France. Donc je pense que c'est à partir de ces moments que je peux appeler pré-Haïti que je vais vous proposer quelques réflexions sur la formation sociale haïtienne. Merci aux organisateurs de m'avoir invité à cette journée, notamment à Mathieu Renaud. Je voudrais vous proposer un débat qui a eu lieu en Haïti pendant la deuxième moitié du XXe siècle autour de la nature de la formation sociale haïtienne. Ce débat était porté par des historiens marxistes tels que Étienne Charlier et Michel Hector, dans un contexte commémorant le 150e de la proclamation de l'indépendance d'Haïti. Cette indépendance a été proclamée en 1804. Dans les années 1950 en Haïti, beaucoup de publications cherchent à interroger le nœud idéologique de la révolution de 1804 afin de cerner la succession des modes de production qu'a connu cette nation. Ainsi, la révolution haïtienne de 1804 était au centre de ce débat sur la nature de la formation sociale haïtienne. Dans le cadre de cette communication, je me suis intéressé aux multiples renouvellement du capitalisme afin d'assurer sa présence dans cette société post-esclavagiste. De la fondation de la nation haïtienne en 1804 jusqu'aux impérialismes du XXe siècle, le capitalisme devient, dans l'historiographie marxiste haïtienne, le vecteur explicatif de cette société. Pour commencer, je voudrais souligner la tristesse qui envahit l'historiographie marxiste haïtienne par la mort de plusieurs figures emblématiques. En moins de 20 ans, Haïti a perdu 5 de ses historiens les plus dynamiques. En 2000, Roger Gaillard, spécialiste de l'occupation américaine 1915-1934, est parti vers l'au-delà. La particularité de ce philosophe de formation réside dans son refus de raconter l'histoire, mais il l'a discutée. En 2013, ce fut les tours de George Covington et de Leslie François Maniga. Et cette année, Michel Hector et Roger Petitfrère nous ont laissés. Je tiens à rendre un hommage bien mérité à ces chercheurs qui ont su créer une place aux questions économiques dans l'histoire haïtienne. J'ai une pensée spéciale pour Michel Hector, dont les œuvres influencent cette communication. Je débuterai donc avec une citation de Cyril Lionel Robert James dans son ouvrage « Les Jacobins Noirs », publié en 1938. Je cite, c'est C.L.R. James qui parle. En 1789, les deux tiers du commerce extérieur de la France se faisaient avec sa colonie antillaise de Saint-Domingue, laquelle représentait le plus grand marché de la traite européenne des esclaves. La plus grosse colonie du monde, fierté de la France et objet de convoitise de toutes les autres nations impérialistes, faisait partie intégrante de la vie économique d'alors. Tout cet ensemble reposait sur le labeur d'un demi-million d'esclaves. Fin de citation. Ce fragment de James débute la préface à la première édition de 1938 de l'étude des Jacobins Noirs qui tend vers une analyse marxiste de la révolution haïtienne de 1804. Il est le point d'où vont émerger les études sur les classes sociales, la propriété privée et l'exploitation de la colonie de Saint-Domingue. Dans ce fragment précité, James insiste sur l'importance de l'esclavage qui faisait, dit-il, partie intégrante de la vie économique française. Ce sont les prémices du capitalisme français qui sont évoquées ici dans ses relations de causalité avec la traite négrière et l'exploitation du travail des captifs devenus esclaves. Ainsi, selon les propos de James, on ne peut pas parler d'un capitalisme français sans évoquer l'esclavage de Saint-Domingue. L'esclavage de Saint-Domingue. En d'autres termes, l'esclavage de Saint-Domingue était l'une des sources les plus enrichissantes de ce qu'on peut appeler la modernité capitalisme en France. C'est dans ce sens qu'on doit comprendre la méthode d'analyse d'Eric Williams face au capitalisme britannique. L'auteur du Capitalisme et esclavage souligne la valeur générique de ses thèses sur le capitalisme britannique, tout en ciblant le cas français. C'est le capitalisme européen qui est affecté par cette aventure inhumaine qu'est l'esclavage. Williams montre la nécessité de développer l'hypothèse française afin de découvrir le côté britannique, énigmatique de ce capitalisme industriel. Notre objectif est d'instituer l'histoire d'Haïti, notamment sa période coloniale à Saint-Domingue, en tant qu'illustration de l'émergence du capitalisme français. La colonie de Saint-Domingue et l'histoire du XXe siècle haïtien sont de véritables moments de l'essor du capitalisme industriel. Beaucoup de marxistes haïtiens engagent leur réflexion sur ce croisement capitalisme-esclavage, au point d'orienter les luttes de Saint-Domingue contre le capitalisme européen, plus précisément le capitalisme français. Le débat sur la nature de la formation sociale haïtienne débute en 1959 par la publication d'une étude d'Étienne Charlier intitulée « Essai sur la formation historique de la nation haïtienne ». Cet ouvrage a été rédigé à l'occasion du 150e de la Révolution haïtienne, 1954-1804. Dans ses analyses de la période coloniale de Saint-Domingue, Charlier accorde une place importante à Toussaint Louverture et cite régulièrement les Jacobins noirs de C.L.R. James. Cet essai de Charlier est un ouvrage clé dans l'historiographie marxiste haïtienne en raison de la pertinence et de la rigueur des analyses. Il reste, en parlant de cet essai de Charlier, l'un des premiers ouvrages haïtiens qui a tenté une analyse marxiste de la révolution haïtienne et surtout une étude approfondie de la question de la nature de la formation sociale haïtienne. Ce débat sera développé dans les années 1970 avec des figures comme Michel Hector, Gérard Pierre Charles et Jean-Luc Montas, tous proches du courant haïtien du dépendantisme. Ils présument la nature pré-capitaliste de la société haïtienne tout en la qualifiant de semi-coloniale, de semi-féodale. Ils se mettent aussi d'accord sur la nature anticapitaliste de la révolution haïtienne, sauf Michel Hector qui apporte de véritables nuances aptes à enrichir le débat. Cette thèse anticapitaliste de la révolution haïtienne interroge les nouvelles formes du capitalisme au XXe siècle. Je me demande comment penser le capitalisme en Haïti à partir de cette révolution anticapitaliste qui a eu lieu en 1804. Quelle est la forme d'un capitalisme pré- et disons post-esclavagiste dans les sociétés du Sud? Pourquoi et comment penser la transition capitaliste dans les sociétés post-capitalistes? Mon objectif dans le cadre de cette communication est de mettre en discussion l'interprétation faisant d'Haïti une société capitaliste. Il s'agit plus précisément d'interroger les thèses de certains marxistes haïtiens sur l'articulation des modes de production dans ce pays post-colonial. Je tiens à mettre en relation ces thèses et leur point de vue anticapitaliste de la révolution de 1804. Je tiens à démontrer l'influence de cet événement dans le débat sur la formation sociale haïtienne. En d'autres termes, la révolution de 1804 reste le fondement de toute interprétation marxiste de l'évolution sociale haïtienne. Chez Michel Hector et Gérard Pierre Charles, le capitalisme est pensé à partir de son rapport avec l'esclavage à Saint-Domingue et sa semi-colonialité au XXe siècle. Je vais d'abord exposer les enjeux liés au contexte de ce débat en Haïti et ensuite présenter les grandes lignes de ses thèses sur le capitalisme et enfin finir avec des considérations sur la place des œuvres de James et de Williams dans la pensée marxiste haïtienne. Les années 1950-60, disons 40-50-60 en Haïti, sont marquées par trois événements. Le premier est la révolte de 1946, déclenchée par de jeunes marxistes tels que Jacques Séphène Alexis, Gérald Blancourt et René Depeste. Ce mouvement a occasionné la subjectivation politique d'une jeune génération héritière des idées de Jacques Roumain. Jacques Roumain est l'auteur de « Gouverneur de la Rosée », publié en 1944. C'est à partir de cet événement qu'on peut vraiment parler de marxisme haïtien au sens politique et théorique du terme. Cet événement a permis l'essor du mouvement ouvrier et l'augmentation du nombre des communistes dans le pays. Après 1946, la littérature marxiste haïtienne a subi de véritables développements conceptuels. La révolte de 1946 est un événement majeur dans la structuration des grands débats du marxisme haïtien. Le deuxième élément qui a marqué cette période est le congrès interaméricain de philosophie consacré à Emmanuel Kant. Ce congrès, dont la deuxième édition sera organisée en 1955, interroge à partir de l'ouvrage critique de la raison pure les fondements de tout savoir. Beaucoup d'intervenants soulèvent des enjeux épistémologiques liés au contexte haïtien du 19e siècle. L'autre élément, c'est l'introduction des questions économiques et politiques dans l'historiographie haïtienne. Avant les années 40 et 50, les historiens ont négligé les enjeux de classe dans leurs récits. Avec Jean-Jacques Amboise, Michel Hector et Leslie Maniga, ce sont des historiens haïtiens des années 40-50, l'historiographie haïtienne endosse une conception matérialiste visant l'importance des modes de production de la naissance et l'évolution de la société haïtienne. La pensée marxiste haïtienne a largement contribué à l'émergence de ce courant économique dans la compréhension du passé. La fondation de l'École normale supérieure en 1947 a facilité l'arrivée de ces historiens marxistes qui, plus tard, ont fait disciples. On pourrait ajouter à ces trois événements la commémoration du 150e de la Révolution de 1804. Dans les années 50, les productions haïtiennes étaient orientées vers la nature et les conséquences de cette révolution, sur l'évolution sociale. Il était question, pendant cette période, d'analyser les multiples situations post-révolutionnaires qui structurent la formation sociale haïtienne. Donc, pour bien saisir le contexte de ce débat sur la nature de la société haïtienne, il faudrait mettre en relation la révolte de 1946 qui a fait exploser le communisme haïtien, le congrès philosophique qui a mis en avant le problème de la production de connaissances dans un pays encore dominé, l'apparition du courant économique dans l'historiographie haïtienne et la construction épistémologique de la révolution de 1804. C'était une période dominée par la pensée marxiste haïtienne, axée sur l'analyse de cet événement majeur qu'est la révolution de 1804. Les marxistes haïtiens se lançaient dans une réécriture marxiste de l'histoire d'Haïti en postulant de nouveaux savoirs depuis la révolution de 1804. Le débat sur l'articulation des modes de production devrait se comprendre à partir de cette velléité épistémologique. Comment ont-ils réussi à penser ces moments singuliers dans l'histoire d'Haïti? Dans quelle mesure ont-ils mobilisé le matérialisme historique de Karl Marx pour comprendre le nœud de la formation sociale haïtienne? Je vais vous présenter brièvement les termes du débat et finir sur quelques considérations sur la réception haïtienne de C.L.R. James et de Williams. Les fondements de ce débat ont été posés sous l'occupation américaine 1915-1934, avec la publication de l'analyse schématique 32-34, signée par Jacques Roumain, Christian Beaulieu et Étienne Charlier. Cet ouvrage, publié en 1934, est considéré comme la première interprétation marxiste du réel haïtien. Il analyse les conséquences du capitalisme américain sur le pays. On est en 1934 lorsque ses auteurs écrivent ceci, je cite, « Notre pays constitue simplement un fief du grand capitalisme international, notamment du capitalisme américain avec ou sans contrat de rachat de la banque dite nationale. » Fin de citation. Jacques Roumain dénonce la dimension impériale des États-Unis qui profite de la force de travail des paysans haïtiens. Il insiste sur la dépendance criante entre les deux pays, États-Unis et Haïti, et invite à sortir de ce stade suprême du capitalisme, pour paraphraser Lénine. Pendant ces 19 ans d'occupation américaine, Haïti devient la proie d'une forme de néocolonialisme dont l'effet sera plus violent dans les années 40-50. Jacques Roumain conclut ainsi son ouvrage, je cite, « Sur l'échiquier du monde capitaliste, nous figurons dans la section des pays débouchés, c'est-à-dire des pays de type colonial qui subissent les lois du grand capitalisme international. » Fin de citation. Ces éléments esquissés par Jacques Roumain seront repris dans les années 50 par un ensemble de marxistes haïtiens. Ils reconnaissent l'influence de Roumain, mais invitent à développer cette question du capitalisme et du colonialisme. Il affirme le caractère semi-colonial, semi-féodal de la société haïtienne, tout en précisant sa nature pré-capitaliste. Michel Hector, qui a beaucoup travaillé sur le passage d'une société à une autre, voit dans le cas haïtien un contre-exemple de cette conception dogmatique de l'histoire. L'historiographie marxiste haïtienne devrait profiter de cette singularité pour déchaîner les marxistes orthodoxes. Haïti ne suit pas les modes de production prévus dans l'histoire. Elle a connu, après l'esclavagisme, le féodalisme manqué, encore ancré dans un colonialisme. Plus clairement écrit Michel Hector, je cite, « L'esclavage ne donne pas forcément le féodalisme. » Fin de citation. Il y aurait même une tentative de passage au capitalisme sans connaître le féodalisme. Ce féodalisme aurait échoué sous la forme d'un semi partagé avec le capitalisme international. L'idée de semi marque, je cite encore Hector, l'écoulement de certaines interprétations dogmatiques sur la succession des modes de production et le passage d'une société à une autre. Michel Hector invite à ne pas insérer dans les représentations de la formation sociale haïtienne des modes de production absents dans les pays du Sud. Il pense, en parlant de Michel Hector, qu'il faut plutôt étudier les contours du système social haïtien dans l'objectif de dégager une nouvelle pensée, toujours à partir de l'appareil conceptuel du marxisme. Je cite une dernière citation d'Hector. En réalité, il est connu que, dans ce domaine, il n'existe pas de système à l'état pur. Le passage d'une période historique à une autre comporte une imbrication extrêmement complexe de tel ou tel autre système antérieur, de dégager les caractéristiques fondamentales propres au nouveau système qui est en train de se développer et de déterminer le poids spécifique de celle-ci dans l'évolution ultérieure de la société. Michel Hector déplace la question vers la richesse de la pluralité des modes de production de la société haïtienne. Il ne faut pas chercher, selon lui, une société où les transitions seraient complètes, c'est-à-dire sans aucune trace des anciens modes de production. Selon lui, parlant de Michel Hector, aucune formation sociale ne peut contenir un seul mode de production. Tout cela s'explique par l'importance de longues transitions dans ces passages sociétaux. Ces derniers, ajoute-t-il, ne sont ni uniformes ni linéaires. Ils comportent de véritables détours qui sont parfois inachevés. Dans son article « Problème du passage à la société post-esclavagiste », il énumère trois conjonctures de transition ayant permis cette opération. La société haïtienne reste pré-capitaliste après de longues périodes de transition non abouties à un autre mode de production de façon intégrale. La thèse d'Hector consiste à montrer que la société haïtienne reste figée dans les sociétés mises en place depuis plus d'un siècle. Le régime semi-colonial, semi-féodal installée au XIXe siècle domine encore la société haïtienne pendant la deuxième moitié du XXe siècle. C'est une économie rétrogradée et entravée par des moyens de production inefficaces. Tout projet de transformation sociale doit interroger ce mode d'articulation économique qui sera à la base de l'appauvrissement de ce pays. Les connexions internationales de cette économie sont le corollaire de son mode de fonctionnement. N'étant pas profitable aux masses populaires haïtiennes, cette économie est au service du marché capitaliste international, d'où l'intérêt de l'interroger dans une dynamique néocolonialiste afin de comprendre le sens de son orientation locale. Hector a rendu un hommage bien mérité à deux historiens haïtiens, parlant de Jean-Jacques Amboise et Mario Rameau, assassinés en 1965 par le régime Duvalier à cause de leurs convictions communistes. Ces deux auteurs sont des pionniers dans le débat haïtien sur l'existence des modes de production en Haïti. L'ouvrage classique d'Hector, Haïti, féodalisme ou capitalisme, a voulu approfondir et systématiser les approches de ces chercheurs qui, paraît-il, ont pris part à ce débat des années 50 en France avec des spécialistes de la Révolution française, tels que Georges Lefebvre et Albert Soubouille. Les marxistes haïtiens signalent la complexité de la question des modes de production en Haïti. Ils cherchent à se donner des outils conceptuels face à cette problématique. En 1959, Jacques-Stéphane Alexis, aussi connu par Général Soleil, écrit, je cite, en effet, la féodalité coexiste chez nous avec la propriété marchande et quelques éléments de propriété capitaliste. Il importe donc de faire une étude fine et circonstanciée du jeu contradictoire de ces éléments en Haïti. Fin de citation de Jacques-Stéphane Alexis. Quant à Jean-Luc Montas, il avance en 1973. Nous avons comparé les éléments observés dans les analyses de Marx, mais l'absence d'institutionnalisation au niveau de la société globale nous oblige à parler de semi-féodalité, non pas pour nous tenir dans la zone floue, ni chair ni poisson, comme des polémiques faciles peuvent le laisser entendre, mais pour cerner le phénomène dans son contenu économique, social et politique. Pour bien cerner le fondement de cette thèse des marxistes haïtiens, il faut se tourner vers Louis Althusser, qui écrit dans « Sur la dialectique matérialiste » que, je cite Althusser, « tout processus social et historique est un tout complexe, déjà donné, structuré à dominante. » Fin de citation de Althusser. Cette phrase d'Althusser a été maintes fois commentée par le marxiste haïtien Jean-Luc Montas pour expliquer la singularité de la société haïtienne. Jean-Luc Montas insiste sur la nature systématique des rapports sociaux en Haïti. Il les voit comme un tout structuré autour de la prédominance du capitalisme. Selon lui, en parlant de Jean-Luc, l'articulation des modes de production doit être étudiée dans cette dynamique d'entrelacement de plusieurs rapports économiques. Jean-Luc conclut que les rapports capitalistes sont dominants dans la société haïtienne parce qu'ils sont chevillés à l'impérialisme. À partir de Louis Althusser, les marxistes haïtiens évoquent une pluralité de modes de production dans la société haïtienne. Ces modes de production, féodalisme, capitalisme, agissent les uns sur les autres et ceci dans une dynamique contradictoire. Les marxistes haïtiens soulignent la singularité de ces modes de production qui, arrivant dans la société postcoloniale haïtienne, prennent la forme non occidentale. L'idée de tout complexe exige de prendre en compte tous les aspects de la formation sociale haïtienne afin de la cerner dans ses nœuds. Ce sont des instances autonomes qui présentent chacune de riches particularités à étudier. La formation sociale haïtienne est d'une complexité hétérogène résultant de sa rencontre avec l'Occident colonial. Les structures économiques de la société haïtienne sont placées en position d'inégalité et changent constamment de place. Considérer la société haïtienne comme un tout, c'est en même temps penser les contradictions existantes entre plusieurs modes de production dont l'un reste dominant. L'analyse des marxistes haïtiens postule aussi l'orientation anticapitaliste de la révolution de 1804. C'est ce qui nous intéresse beaucoup à travers ce débat. Elle est vue, en parlant de la révolution de 1804, comme le premier moment haïtien de la lutte contre le mode de production capitaliste. La révolution de 1804 reste, aux yeux des marxistes haïtiens, un mode de radicalité contre toutes les formes modernes d'oppression, d'exploitation et de discrimination. Certains l'ont qualifié, en parlant de la révolution de 1804, d'anticapitaliste en raison de son rejet de la traite négrière, un moment important de l'accumulation primitive du capital. Ainsi, dans la colonie de Saint-Domingue, les Noirs captifs étaient des marchandises rentables pour le système capitaliste. Selon ces marxistes, la révolution de 1804 n'a pas seulement fait exploser l'entreprise esclavagiste, mais aussi la modernité économique axée sur l'exploitation et la plus-value. Gérard Pierre Charles, c'est un marxiste haïtien, qui soutient le caractère anticapitaliste de la révolution haïtienne de 1804, écrit ceci dans un livre consacré à Toussaint Louverture. Je cite Gérard Pierre Charles. « C'est l'esclavage qui a donné leur valeur aux colonies. Ce sont les colonies qui ont créé le commerce mondial, et le commerce mondial est la condition nécessaire de la grande industrie mécanisée. » Fin de citation. Gérard Pierre Charles est l'un des marxistes haïtiens qui a accordé dans ses analyses une importance exceptionnelle à la question coloniale. Il a réussi à intégrer dans sa conception du marxisme les idéaux portés par la révolution de 1804. Il a aussi donné une place aux questions politiques et culturelles dans sa conception du marxisme. Il est l'auteur de « Radiographie d'une dictature » qui a fait une analyse marxiste de ce régime et son ouvrage « Vision contemporaine de Toussaint Louverture » publié en 1992, dans lequel il croise le capitalisme et l'esclavage en s'appuyant sur les travaux de C.L.R. James et d'Eric Williams. Il écrit ceci, je cite Jean-Pierre Charles pour finir. Quand les esclaves de Saint-Domingue ne purent supporter davantage la vie bestiale que leur inspirait la terreur et le fouet du colon blanc, ils prirent les armes contre les toutes-puissantes armées napoléoniennes, réalisant la première révolution victorieuse d'esclaves dans l'histoire de l'humanité. Karl Marx, le fondateur du communisme scientifique, n'était pas encore né. Fin de citation. Je finis avec quelques considérations sur la réception haïtienne de C.L.R. James et d'Eric Williams. Il faut dire de prime abord que les œuvres de C.L.R. James et d'Eric Williams jouissent d'un faible intérêt chez les marxistes haïtiens. L'ouvrage « Les Jacobins Noirs », publié en 1938 et traduit en français en 1949, est rarement cité par les écrivains haïtiens. À plusieurs reprises, certaines grandes thèses de cet ouvrage ont été rejetées par Étienne Charlier, qui est un historien haïtien, et Gérard Pierchard. Étienne Charlier a publié en 1934, comme je l'avais dit au début, un ouvrage intitulé « Essai sur la formation historique de la nation haïtienne ». Cette étude s'inscrit dans l'émergence de l'historiographie marxiste haïtienne et cherche à interroger à partir de la révolution haïtienne de 1804 la singularité de la formation sociale haïtienne. Une bonne partie de cet ouvrage est centrée sur Toussaint Louverture. Charlier cherche à savoir si vraiment Toussaint Louverture visait l'indépendance de Saint-Domingue. L'auteur, en parlant de Charlier, voit dans les velléités de Toussaint Louverture une aspiration au pouvoir suprême. Il s'en prend à C.L.R. James, auteur de Les Jacobins Noirs sur la révolution haïtienne, d'avoir éclipsé cette question pour faire de Toussaint Louverture le leader le plus révolutionnaire à Saint-Domingue. Gérard Pierre Charles esquisse un autre portrait idéologico-politique de Toussaint Louverture. Dans son ouvrage consacré à Toussaint Louverture, il pose le problème en termes de souveraineté nationale. Néanmoins, il souligne l'importance des analyses d'Eric Williams sur le capitalisme et l'esclavage. C'est l'un des rares moments où cet ouvrage d'Eric Williams est cité, en parlant de capitalisme et esclavage. À mon avis, deux éléments expliquent cette réception mitigée de C.L.R. James en Haïti. disons pas en Haïti, mais dans la pensée marxiste haïtienne. La filiation établie entre les révolutions haïtiennes et françaises et l'orientation trotskiste de Sailor James. James tend à expliquer la révolution haïtienne de 1804 de concert avec ce qui s'est passé en France en 1789. De même, l'idée d'appeler les captifs, je dis les captifs pour utiliser un terme de Jean Casimi à la place d'esclaves, l'idée d'appeler les captifs de Saint-Domingue les Jacobins montre toute la vélérité de l'auteur de saisir l'essence de cet événement dans une démarche occidentaliste, je peux le dire. James précise dans son ouvrage Les Jacobins Noirs, je cite, « Dans ses racines et son développement, la révolution de Saint-Domingue suivit le cours de la révolution française. Cependant, sur certains aspects qui ne sont pas négligeables, la révolution dans la colonie surpasse dans ses effets la révolution métropolitaine. » Fin de citation. Toute la tradition marxiste haïtienne remet en question cette filiation pour argumenter la discontinuité entre ces deux événements. Les marxistes haïtiens mettent en avant la radicalité de la révolution de Saint-Domingue qui touchait aussi et surtout les contradictions économiques. La révolution de 1789 en France serait plutôt porteuse d'une émancipation politique. Il y a, selon eux, les marxistes haïtiens, aucun enchaînement idéologique entre ces deux révolutions, françaises et haïtiennes. Jean-Luc Montas, l'une des figures de proue de la pensée marxiste haïtienne, écrit ceci, peut-être en réponse à Sailor James. Je cite Jean-Luc. La révolution haïtienne ne peut donc pas calquer son déroulement sur la révolution démocratique bourgeoise du XVIIIe siècle, parce qu'elle se développe contre toutes les luttes de libération nationale à travers le monde, dans un univers où le capitalisme impérialiste étend ses tentacules sur les pays dominés. La révolution haïtienne, c'est une révolution anticapitaliste. L'objectif de la révolution haïtienne, ce n'est pas l'établissement d'un régime politique de démocratie bourgeoise, c'est le dépassement de la démocratie bourgeoise, c'est la démocratie nationale. Fin de citation. Les marxistes haïtiens s'attachent moins à la figure de Toussaint Louverture qu'à celle de Jean-Jacques Dessalines. Ils font surtout confiance à l'intention révolutionnaire de Dessalines dans la colonie. Ils réinvestissent certaines valeurs dessaliniennes afin d'élaborer un projet révolutionnaire dynamique. Il interpelle souvent la colère de Dessalines face au mutisme des dirigeants. La figure de Léon Trotskiste était absente dans les références politiques des marxistes haïtiens. Pour finir, de ce qui précède, on peut déduire que le rapport d'Haïti avec le capitalisme reste problématique. Il nous donne à penser une ontologie dressée sur une humanité souffrante au profit du système capitaliste. Entre la thèse du pré-capitalisme de Michel Hector, celle du capitalisme de Gérard Pierre-Charles et celle du post-capitalisme de Gérard Barthélémy, on ne sait plus comment situer le capitalisme en Haïti. Ainsi, il devient nécessaire de repenser la forme du capitalisme dans ce pays anciennement colonisé. L'ouvrage d'Eric Williams et celui de James aussi, Les Jacobins Noirs, permet de penser ce capitalisme à partir des Caraïbes. À partir de ce lieu, une réflexion décoloniale sur le capitalisme pourrait émerger tout en considérant l'idéal radical porté par la révolution haïtienne. Merci.
On a une dizaine de minutes pour des questions. Je vais en faire deux très rapidement avant de passer le micro. Pardon. Juste, j'ai pas, quelque chose que je n'ai pas bien compris dans l'argument au départ, c'est comment la révolution haïtienne peut-elle être dite anticapitaliste si la société haïtienne, et même là, encore postcoloniale, est dite, elle, précapitaliste, même si tu as montré après qu'il y avait d'autres types de pensées, de l'articulation des modes de production et autres, avec notamment la référence à Althusser. Bon. En gros, comment elle peut être anticapitaliste s'il n'y avait pas de capitalisme? Bon. Ou alors, c'est un capitalisme qui est étranger. C'est seulement un capitalisme qui est pensé comme le capitalisme étranger, français, britannique et autres, sans que la société haïtienne, au moment de la Révolution, n'ait quoi que ce soit à voir avec le capitalisme. Et deuxième question, juste des informations. Le congrès où il a été question du problème de la production de connaissances en pays dominé, c'est le congrès sur Kant, c'est ça?
Oui, oui. Et c'est consacré à Emmanuel Kant.
Et c'est disponible.
Il n'y a pas d'ouvrage qui a été écrit là-dessus, mais normalement, on peut trouver. Il y a des journaux qui ont relaté l'événement, notamment Le Nouvelliste.
D'accord. On n'a pas les textes. On n'a pas d'intervention.
Pas de texte d'intervention. Oui, oui, oui. Je crois que. On peut en trouver dans le livre de Claude Souffrant, sur la négritude socialiste. Lui, il a relaté quelques interventions. Mais normalement, il y en a eu deux en Haïti, ouais, dans les années 40, avec la présence de beaucoup d'intellectuels en Haïti, que ce soit avec... Il y a eu beaucoup d'intellectuels qui ont visité Haïti dans les années 40, que ce soit Jean-Paul Sartre, Aimé Césaire, tout ça. Et on a eu aussi, dans les années 50, un autre congrès. Les deux étaient consacrés à Emmanuel Kant sur la question de la connaissance. Parce qu'à ce moment, je pense qu'en France, il y avait des turbulences politiques dans les années 40, après la Deuxième Guerre mondiale. Je pense qu'on était orienté beaucoup plus vers les États-Unis, et notamment les petits pays où il y avait vraiment un peu de paix, la paix. Voilà.
Oui, une question. Alors, j'ai été interpellé par une affirmation que vous avez dite là. Si Leo James, en fait, du moins les historiens haïtiens, beaucoup des historiens marxistes haïtiens ont été opposés aux thèses de si Leo James sur notamment les personnages historiques que sont Toussaint Louverture et Dessalines. Alors, l'argument que tu as avancé, c'est le fait que si Leo James était trotskiste, enfin d'obédience trotskiste en partie, mais en même temps. Voilà. Mais en même temps, alors bon, pour les marxistes staliniens à l'époque, c'était un crime impardonnable. Mais en même temps, si la Gilles n'était pas que trotskiste. Et puis, il y a aussi le fait qu'il a fortement influencé toute la pensée historique des anti-anglophones et beaucoup aussi des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Guyanais, donc francophones. Il les a beaucoup influencés. Alors, je me demandais aussi, c'est une question ouverte, hein, est-ce que ce n'était pas une forme... disons, de nationalisme haïtien, que d'avoir une opposition, disons, à un peu l'éclairage que Toussaint Louverture que Cilla James a porté sur la révolution haïtienne, parce que quand même, il a été très loin dans justement le caractère anticapitaliste pour lui de la révolution haïtienne.
Oui, je voudrais reposer un peu la même question que Monsieur Renaud, bon, sur effectivement comment on peut être anticapitaliste par rapport à une société qui elle-même n'est pas évidemment capitaliste. Donc ça reste pour moi un point à éclaircir. J'aurais deux autres aspects à vous poser. Comment ces auteurs, j'en ai lu un certain nombre, mais il y a tellement longtemps que je ne vous cache pas que sont pas très clairs dans mon esprit. Comment ces auteurs envisagent la question du code du travail mis au point par Toussaint Louverture et que Dessalines n'a pas forcément complètement abrogé. Donc, dans quel cadre, quel système? Parce que s'ils disent que bon, c'est une révolution qui présente une grande radicalité, vous avez dit, par rapport à toutes les formes d'exploitation. Bon, le code du travail de Toussaint Louverture, y compris Dessalines, c'est pas forcément quand même dépourvu de toute exploitation. Donc, j'aimerais que vous me disiez comment il voit ça. Et puis, il y a un autre problème, c'est que moi, là, récemment, par contre, j'ai pas relu ces auteurs, mais j'ai lu énormément de textes d'haïtiens sur la révolution de 1904, mais les auteurs de l'époque, les auteurs tout de suite après la révolution de 1904, de 1804, pardon, excusez-moi. Ce qui revient quand même chez ces auteurs tout le temps, c'est la question du conflit entre les anciens libres de couleur et les esclaves libérés. Et certains disant que c'est fondamental, d'autres disant que c'est pas fondamental, que c'est pas... Ouais. Mais enfin, bon, ça revient constamment. Donc comment ces auteurs, est-ce que ces auteurs abordent ce problème-là dans la révolution de 1804, cette lutte qui en tout cas est désignée par énormément d'auteurs de l'époque, hein, c'est un... Voilà.
Donc, il faut que je précise que je parle de la pensée marxiste haïtienne. Je parle des figures bien précises qui sont... Oui. Parce que pendant cette période... Non, le problème, c'est que pendant cette période, il y avait d'autres intellectuels haïtiens qui ont proposé des réflexions à partir de James. Donc, qui n'étaient pas aussi critiques envers James. Que ce soit Lainé Coubon, qui est un sociologue un peu connu, qui a commencé à écrire dans les années 70, que ce soit Claude Souffrant. Donc, ce sont des intellectuels qui n'étaient pas d'obédience marxiste. Moi, je veux parler de la figure de James dans la pensée marxiste haïtienne. Et j'ai précisé quelques figures, que ce soit Jacques Roumain sous l'occupation américaine et dans les années 50-60, il y a une nouvelle génération qui a été plus prolifique avec Gérard-Pierre-Charles, Michel Hector et Jean-Luc Montas. Donc, ce qui m'intéressait, c'est que l'ouvrage Les Jacobins Noirs a été publié dans les années 1938. Ça a été traduit 10 ans après, en 1949, en français. Et l'ouvrage qui a débuté le débat sur la formation sociale haïtienne, l'ouvrage haïtien, je peux dire, entre guillemets, haïtien, d'Étienne Charlier, a été publié en 1954. Cet ouvrage est axé sur toutes ces ouvertures comme les Jacobins Noirs. Mais il a été rarement cité. Et la maître fois qu'il a été cité, en parlant de C.L.R. James, c'était pour critiquer C.L.R. James, pas seulement dans son orientation trotskiste. L'orientation trotskiste, c'est moi qui essaie d'expliquer pourquoi cette critique. Moi, je pense qu'il y a chez James une filiation entre la Révolution française, un enchaînement, je peux dire, entre la Révolution française et la Révolution haïtienne. Tandis que les marxistes haïtiens, dont j'ai analysé les œuvres ici, ne sont pas d'accord avec cette filiation. Selon eux, on ne doit pas penser la Révolution haïtienne de 1804 dans une continuité avec la Révolution française. L'idée, comme je viens de le dire, l'idée de Jacobin même, quelqu'un comme Jacques Séphène-Alexis avait du mal avec l'idée de Jacobin noir pour qualifier les captifs de Saint-Domingue. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de regarder l'aventure de cet ouvrage, les thèses de cet ouvrage chez les marxistes haïtiens. Ce n'est pas vraiment de regarder la réception haïtienne de C.L.R. James en Haïti, la réception de C.L.R. James et Eric en Haïti. Mais c'est chez les marxistes, je pense qu'il y avait vraiment un faible intérêt pour C.L.R. James. Donc moi, j'ai essayé d'expliquer ça avec deux hypothèses. C'est l'orientation trotskiste et la filiation révolution française et révolution haïtienne. Après, autre chose, c'est que c'est toujours dans la pensée marxiste haïtienne, à travers ce débat dont je viens de présenter les termes, il y avait plusieurs courants sur la révolution haïtienne. Il y avait un courant qui estime que la révolution haïtienne était anticapitaliste, et l'argument, c'était de montrer que les esclaves étaient quelque part des prolétaires. Donc, c'est un argument critique qu'on peut critiquer, parce qu'ils étaient dans des colonies de plantations qui participent à la production de plus-value d'un capitalisme international. Alors, donc c'est ça l'argument des marxistes haïtiens. Et il y en a deux qui l'ont porté, c'est Gérard Pierre-Salles et Jean-Luc. Et de l'autre côté, vous avez un autre courant de marxistes qui estime que non, comme Michel Hector, on ne peut pas parler de révolution anticapitaliste. Parce que ces mêmes auteurs qui parlent de révolution anticapitaliste avaient du mal à penser le capitalisme au XXe siècle. Vu que la révolution haïtienne de 1804 était taxée d'anticapitaliste, maintenant, leur question, c'est comment penser ce capitalisme, comment penser ce retour du capitalisme dans l'histoire d'Haïti. Donc, mon objectif, c'était de mettre en valeur ces points de vue contradictoires pour montrer qu'il y a un problème quand on pense le capitalisme par rapport à Haïti. Parce que, toujours dans l'esprit de C.L.R. James, tous ces éléments cités par C.L.R. James, que ce soit la propriété privée, que ce soit l'exploitation, donc ce sont des éléments qui peuvent constituer ce qu'on appelle le capitalisme occidental. Mais en fin de compte, on a fini par comprendre que les marxistes haïtiens, certains marxistes haïtiens, ne sont pas dans cette ligne. Donc c'est le problème, c'est comment maintenant penser le capitalisme en Haïti, l'articulation des modes de production. Est-ce qu'il faudrait redéfinir les termes de ce débat pour parler de ce qu'on peut appeler la société haïtienne. Après, Code du travail chez les marxistes haïtiens, moi, j'en ai pas lu. J'ai lu quelques marxistes haïtiens les plus connus. Je peux dire environ 4 à 5, parce que j'ai fait ma thèse sur la réception
la réception d'une problématique qui s'appelle la problématique de l'aliénation chez les marxistes haïtiens. Donc, je n'ai jamais découvert des questions liées au, au code rural de Toussaint Louverture. Moi, comme je vous le dis, les marxistes dont j'ai lu les œuvres sont beaucoup plus attachés à l'idéal, à la figure de Jean-Jacques Dessalines que Toussaint Louverture. Ce qui reste à expliquer, parce que moi, je peux toujours donner des hypothèses, mais c'est Jean-Jacques Dessalines qui était considéré comme, comme le leader le plus radical aux yeux de ces marxistes. Merci.